Vivante Église. Vivante Église. Vivante Église, le magazine régional de la vie chrétienne. Une émission proposée par Emmanuel Pella.
L'actualité ne fait pas vraiment de publicité à l'Église et aux chrétiens. Pourtant, que deviendrait la société française si on lui ôtait l'engagement des centaines de milliers de chrétiens qui travaillent avec d'autres, certes à servir l'homme et spécialement les plus pauvres? C'est le cas notamment du CCFD Terre Solidaire, acteur historique de la solidarité en France, première ONG de développement. Une ONG très aimée de certains, décriée par d'autres selon les sensibilités d'Église. Mais à l'heure où le pape François, suite à la publication de l'encyclique Laudato Si, rappelle à temps et à contre-temps que tout est lié, peut-être est-il temps d'aller chacun au-delà de ses affinités naturelles. Quoi de neuf au CCFD Terre Solidaire? C'est donc le thème de l'émission Vivante Église de ce matin, avec autour du plateau, alors il n'y a que des femmes, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a que des femmes qui sont engagées. Françoise Laborde, vous êtes présidente donc de la délégation du diocèse de Toulouse du CCFD Terre Solidaire, bonjour.
Bonjour.
Monique Plantavide, vous êtes déléguée régionale à la commission plaidoyer pour le CCFD Terre Solidaire, bonjour.
Bonjour.
Et Chantal Aubé, membre également de cette même ONG et ancienne chroniqueuse écologie à Radio Présence 2007. De 2007 à 2011. Bonjour.
Bonjour.
Cette émission, donc, parce qu'il y a, il y a toujours du nouveau au CCFD Terre Solidaire, mais là, on va dire, il y a des nouveautés importantes, puisque vous en êtes à refondre le logo. On verra ça un petit peu plus tard. On s'est dit donc que c'était l'occasion de mettre un coup de zoom sur cette ONG, très connue de certains et peut-être mal connue de d'autres. Comment vous réagissez? J'ai vu que ça vous avait fait sourire, Françoise Laborde. Est-ce qu'au CCFD, on souffre un peu comme ça d'une certaine étiquette au cœur de l'Église, ou qu'est-ce que vous pensez parfois de ces guerres de chapelle à l'intérieur de l'Église, où on est du CCFD ou pas?
Oui, c'est encore une réalité. Il y a des paroisses où le CCFD souffre et n'est pas accueilli, voire exclu. Donc c'est encore une réalité. Il y a des chrétiens qui ont encore des préjugés contre l'ONG. Et bon, ça s'explique par leur sensibilité, leur culture personnelle. Mais c'est parfois, on le voit en préparant des messes avec certains prêtres, il y a une possibilité d'ouverture parce qu'ils se rendent compte que l'image qu'ils ont est étroite et qu'il faut aller au-delà. Bon, c'est vrai que le pape est un appui extraordinaire pour le message actuel du CCFD. Enfin,
voilà, c'est la question que j'allais vous poser, c'est que vous avez un porte-parole quelque part. En la personne du pape François.
Oui, on a eu un éblouissement en lisant Laudato Si.
Voilà, Laudato Si, dont on parle souvent à cette antenne avec cette émission mensuelle de lecture et de commentaires. Est-ce que, donc on va partir du principe que les auditeurs ne connaissent pas forcément le CCFD, voilà. On va dire que tous les deux ans, on se permet de mettre des coups de zoom comme ça sur des mouvements d'église pour partir à leur découverte. Je disais première ONG de développement. Est-ce que vous pouvez nous dire ça veut dire quoi? C'est-à-dire que c'est la plus ancienne, c'est la plus grosse?
Alors, c'est la plus ancienne au niveau du développement, puisqu'elle a été créée en 1961. Donc, c'est le tout début où l'on découvrait la question de la faim. En fait, c'est le directeur de la FAO qui avait lancé un appel à l'Europe et qui a été relayé par le pape de l'époque. Et donc, les évêques de France ont fait appel à un collectif d'ONG qui s'est appelé le CCF, donc des mouvements de l'Église. Et actuellement, le CCFD regroupe encore dans ce qu'on appelle la collégialité 28 mouvements de jeunes et d'adultes de l'Église de France.
Donc, c'est comité contre la faim et pour le développement.
Comité catholique contre la faim et pour le développement. Et on a rajouté ensuite le prénom Terre Solidaire parce que, en fait, le CCFD s'est orienté très vite, non pas vers l'aide d'urgence, mais vers le développement, c'est-à-dire le travail sur le long terme et la confiance dans les partenaires des pays du Sud. C'est-à-dire qu'on ne souhaite pas plaquer un développement à notre image, on souhaite faire appel aux ressources des gens du Sud et donc on s'appuie sur les propositions de partenaires. Donc le premier levier de l'action du CCFD, c'est toujours le même, c'est l'appui à environ 700 partenaires, ça fait 400 associations, 700 partenaires dans le monde, dans 63 pays. Et ça touche 2 millions de personnes qui sont donc impactées par ces projets, qui peuvent être des petits projets à une échelle locale, mais des projets à une échelle nationale, voire sur plusieurs pays en Afrique. Donc c'est du développement.
Qu'on vienne là-dessus, j'avais une question. Quand vous dites que ça a été soutenu par les évêques, est-ce que ça fait partie donc des ONG françaises ou chrétiennes qui ont un peu un statut à part, comme le Secours catholique, où il y a vraiment un lien très fort avec l'Église? Est-ce que vous pouvez expliquer ça davantage? J'ai vu qu'il y a un évêque aussi référent.
C'est ça, il y a un évêque référent, oui, tout à fait. Il y a un évêque référent, c'est Mgr Dubost actuellement. Et donc, on est accompagné par cet évêque régulièrement pour voir si le lien se vit bien. Il y a eu des demandes de changement à certaines périodes. Oui, c'est très important.
C'est un mouvement qui a une réalité œcuminique aussi, ou est-ce que ça c'est une réalité...
Non, ça c'est la CAT, le CCD comité, catholique.
Comité catholique, c'est vrai que là c'est une question piège, j'aurais pu m'en douter tout seul. si vous deviez prendre quelques exemples de ces actions de soutien au terrain, donc je lis sur votre site, on trouve la chose suivante. Mm-hmm. L'aide directe constitue une réponse appropriée à des besoins immédiats extraordinaires, mais elle ne suffit pas. Il faut réformer les institutions économiques et financières internationales pour qu'elles promeuvent mieux des rapports équitables avec les pays les moins avancés. Donc c'est l'aide au développement durable et puis une action de plaidoyer, on verra ça un peu plus tard. C'est un extrait d'ailleurs du catéchisme de l'Église catholique qu'on trouve sur votre site. Si vous aviez des exemples de projets qu'ici en Occitanie vous travaillez à soutenir.
Oui, alors on a un partenariat un petit peu de rapprochement avec l'Amérique latine depuis plusieurs années, avec la Bolivie et le Pérou. D'ailleurs Chantal est partie en Bolivie il y a 3 ans.
Deux ans et demi,
avec son mari. Et donc, ce sont des projets qui sont tournés vers l'agroécologie, vers la lutte contre l'accaparement des terres, le développement des grands projets miniers. C'est des projets qui défendent les droits, souvent là, des communautés paysannes qui sont impactées et à la fois par le changement climatique, par ces grands projets miniers ou de barrages et qui volent leurs terres, qui les empêchent de se nourrir, ou qui font on voit aussi des grandes plantations de soja ou de plantes qui servent à l'exportation et qui ne permettent pas du tout leur vie. Donc le CCFD appuie beaucoup en Amérique latine ce type de projet, mais il y a aussi des projets liés aux droits humains. L'an dernier, on accueillait donc une jeune Roumaine de Roumanie, donc qui essayait de développer un peu la culture, le commerce, l'artisanat rom dans toute sa valeur. Et c'était aussi un beau projet. Et cette année, on aura encore un partenaire rom de Slovaquie au mois de mai, un partenaire de jeunes qui sont scolarisés et qui découvrent, qui développent leur culture, la danse, le chant. C'est un exemple aussi de respect des populations.
C'est-à-dire que là, donc, c'est non seulement travailler au développement, on va dire, le développement, mais aussi le développement des droits humains.
CCFD s'est toujours appuyé. C'est la lutte contre la faim, c'est notre pivot, si vous voulez. Mais comme les causes de la faim sont multiples, eh bien, on rejoint bien sûr les droits humains de manière plus générale.
Alors si vous deviez détailler donc, les grandes missions du CCFD, quelles sont-elles?
Oui, donc il y en a 3. C'est l'appui à ses partenaires, à ses associations du Sud. Ensuite, ici, c'est la sensibilisation à la solidarité internationale.
C'est 700 acteurs, vous disiez tout à
l'heure. Oui, c'est ça. 700 ONG dans 63 pays, donc Amérique latine, Afrique, Asie, Europe de l'Est, et un petit peu aussi en France à travers l'appui à des ONG concernant les migrants. Alors, donc ça, c'est le soutien aux partenaires. Ensuite, donc, il y a la sensibilisation à la solidarité internationale à travers des outils, hein, des jeux, des livrets, des affiches, la campagne de Carême. Et puis, le troisième levier qui est plus récent que va nous développer Monique, c'est le travail de plaidoyer. Depuis l'an 2000, à la demande des partenaires, le CCFD a compris que faire un travail de don, de microcrédit avec la CIDI, la Société d'investissement, bon, c'est bien, mais ça ne suffit pas. Il faut que les politiques internationales changent. Et donc, il faut faire du plaidoyer auprès des instances françaises, européennes, en ce qui concerne
le CCFD. Donc le plaidoyer, c'est une action politique,
action. Oui, c'est une action de sensibilisation politique.
Voilà. Qui est souvent menée conjointement aussi avec d'autres ONG.
Voilà, toujours. toujours, oui, avec des ONG catholiques ou non catholiques. Voilà.
Alors, il y a une actualité, c'est donc, vous avez eu, si je ne me trompe pas, relativement récemment, une nouvelle présidente et un nouveau secrétaire général.
Oui, tout à fait.
Donc, s'ensuit un certain nombre de nouveautés, donc, entre autres donc, la modification de votre logo et ce sous-titre, je sais, ou cette signature pardon, du CCFD Terres Solidaires, Soyons les forces du changement, avec un teasing qu'on voit un petit peu circuler sur Internet.
Oui, ça va.
Vidéo
va
très
sortir,
sympathique.
Là, oui. Mmh, oui. Oui. Oui, oui, je le trouve très positif. Oui, oui. Je ne sais pas si vous l'avez écouté. Là, il va sortir.
Moi, je l'ai écouté en tout cas.
Il va ressortir.
Il est sur le site internet. Hein,
ah oui, oui, tout à fait. Moi, je ne l'ai pas encore entendu à la radio, mais ça va venir pour la semaine du 5e dimanche de Carême, j'imagine.
Donc, c'est CCFD en plus petit, Terres Solidaires en
voilà.
plus gros.
Alors
j'imagine que dans tout changement, certains doivent.
Pardon. Les deux mains qui soutenaient la Terre, elles sont maintenant à l'intérieur du globe et elles se tendent l'une vers l'autre. Donc on peut se dire c'est la main du Nord vers le Sud, enfin, pardon, la main des gens du Nord vers les partenaires du Sud ou l'inverse, hein, bon. Et puis donc il y a cette signature qui est positive, qui montre qu'effectivement on peut
s'engager.
Soyons
les forces du changement.
Voilà, on peut tous agir hein, et on est... C'est tous, quoi. On est différents et on peut faire des choses. Donc, je crois que le slogan accentue aussi le mot Terres Solidaires, parce que CCFD, c'est vrai que c'était pas très lisible. On disait, ah, c'est un syndicat, c'est... Non, c'est pas ça. Voilà.
Donc, il y a quand même 15 000 bénévoles en France. Alors, je voulais vous demander, ce que je crois que je voulais jamais demander, bien que vous passiez de temps en temps à cette antenne, vous, qu'est-ce qui vous a mis en route, Françoise Laborde, puisque ce qui est, on va dire, proposé, vendu, vendu, le mot est mal choisi, mais votre secrétaire générale, donc Sylvie Boucari de Pontual,
oui.
J'espère que je ne prononce pas mal son nom, insiste beaucoup là-dessus, ainsi que son nouveau secrétaire général. On peut tous donc agir et participer à la construction d'un monde meilleur. Alors vous, quelle a été un peu la genèse de cette aventure?
Ah, alors si on remonte loin, c'est peut-être que je viens d'une communauté comment dire multiraciale. Je suis de Corbeil-Essonne, de la chapelle des Saint-Joseph des Tarterets, où il y a toutes les races, enfin vraiment toutes les couleurs. C'est peut-être une sensibilité de base. En région parisienne, oui. Après, le CCFD avait frappé à ma porte plusieurs fois, et puis bon, ben, je n'avais pas plus répondu. Et c'est en fait le curé de Colomiers, le père Louis Dufort, qui est resté longtemps sur notre paroisse, qui souhaitait créer une équipe. Donc il avait fait appel à une laïque qui m'a demandé, voilà, je suis entrée dans l'équipe locale. Puis après, on m'a dit, oh, les médias, pourquoi pas, bon. Et puis petit à petit, dans l'équipe diocésaine.
Mais qu'est-ce qui vous a plu? Qu'est-ce qui vous a parlé au cœur?
Moi, ce qui m'a parlé, à ce moment-là, j'étais déjà militante de l'ACAT, l'Action des chrétiens pour l'abolition de la torture, mais ce qui m'a parlé au CCFD, c'est le côté positif, c'est la possibilité de changement que portent les partenaires. C'est, chaque année, on en accueillait, maintenant un petit peu moins, mais encore, et on voit bien les projets avec des voyages ou sur le site. C'est vraiment une ONG porteur d'espoir, parce que les gens se prennent en main. Et on voit que chaque projet fait boule de neige, il part d'un petit point et ça s'étend et ça fait vraiment des choses positives. Donc pour moi, c'est il faut. Et puis c'est une question de justice, quoi. On peut pas rester les bras ballants à attendre. Attendre que le pape nous le redit, hein, la fin, elle est toujours là. Je me souviens du père Jacques Cazenave, notre aumônier, qui disait au début, CCFD, on s'est dit, c'est pour quelques années, ce sera fini, et puis la fin, elle est toujours là. Il y a toujours plus de 800 millions de personnes qui souffrent de la faim dans le monde. Donc non, le problème n'est pas résolu, et il faut continuer à se battre, parce que les facteurs sont différents, mais... tout aussi pesant.
Votre secrétaire général, à ces mots, nous devons proposer le CCFD Terres Solidaires à un maximum de Français, leur donner envie de s'impliquer, de participer à une action, de faire preuve de générosité. Et puis donc, Monseigneur Michel Dubosc, évêque accompagnateur, qui dit la chose suivante, c'est à chacun de nous. Chacun de nous doit se demander, qu'est-ce que je fais pour les autres? Si nous comprenons que c'est le problème de tous et que chacun de nous peut faire avancer les choses, oui, bien sûr, le monde peut changer. On va faire une première pause musicale et puis justement, on va voir un certain nombre d'actions, entre autres ces actions de plaidoyer. Et puis, on parlera aussi d'Église verte. C'est un nouveau label qui n'est pas porté que par le CCFD pour inciter les communautés chrétiennes à se lancer dans la transition écologique.
présence. Vivante Église, Emmanuel Pella.
Quoi de neuf au CCFD Terre Solidaire ? C'est pour rappel donc le thème de l'émission Vivante Église de ce matin, avec autour du plateau Françoise Laborde, présidente de la délégation du diocèse de Toulouse de cette ONG, Monique Plantavide, qui elle est déléguée régionale de la commission plaidoyer, et Chantal Aubé, membre de cette même ONG, le CCFD Terre Solidaire, et ancienne chroniqueuse écologie à Radio Présence, donc que vous avez tenu une chronique de 2007 à 2011. Et avant qu'on parle donc des certaines de vos actions et de vos actualités, comme je vous disais, j'aimerais bien qu'on s'arrête un tout petit peu donc sur la question de la faim, parce que comme vous avez beaucoup d'activités, on finit par oublier que c'est votre cœur de cible. Et puis comme nous n'avons pas beaucoup de problèmes de faim, quoique on va dire que peut-être les plus de 100 000 personnes à la rue en France ne diraient pas la même chose, on ne connaît pas toujours cette réalité. Alors quelques chiffres, et puis je vais vous laisser les commenter, qu'on trouve sur votre site. 821 millions de personnes ont souffert de la faim en 2017, soit 11% de la population mondiale. Et quand on regarde le détail, donc ce sont surtout dans des régions de conflits armés, et sont dénoncées aussi les spéculations sur les produits alimentaires. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire sur ce sujet avant qu'on parle des actions du CCFD, Françoise Laborde ou autre ?
Oui. Mais donc c'est effectivement, ce sont les pays du Sud qui sont les plus impactés. Le plus, c'est l'Asie. Hein, c'est 520 millions de personnes qui souffraient de la faim en 2016.
Est-ce que c'est certains pays en particulier ou...
Là, je n'aurai pas de détails. 243 millions en Afrique et 42 millions en Amérique latine et aux Caraïbes. Et les causes de la faim, donc vous en avez cité quelques-unes, c'est bien sûr les conflits, parce que quand il y a conflit, on ne peut pas produire, on ne peut pas vivre.
On pense au Yémen, par exemple, on en parle souvent à cette antenne.
Oui. Il y a aussi la question, ce qu'on appelle l'agro-business, c'est-à-dire cette agriculture industrielle qui étouffe les petits paysans, parce que dans ces 800 et quelques millions de personnes qui souffrent de la faim, il y a 60% de petits paysans qui pourtant produisent 80% de l'alimentation mondiale. Mais ce sont eux en priorité qui sont menacés, parce que ils sont chassés par l'accaparement des terres, par des
vous
systèmes.
Vous voulez dire que c'est des paysans eux-mêmes qui souffrent de la faim ?
Oui, parce qu'on les empêche de produire. Ils sont chassés de leurs terres, ils sont impactés par des projets importants et ils ne peuvent plus vivre. Si on les fait produire du soja ou une monoculture de coton ou de je ne sais quoi, évidemment, ça ne nourrit pas la population. Ils ne peuvent plus faire leur petite polyculture parce qu'on les renvoie ailleurs, et sur des terres beaucoup moins fertiles. Donc ça, c'est un énorme problème. Alors après, il y a évidemment le changement climatique qui joue, parce que les pays du Sud sont les premiers impactés. Le désert avance, les montagnes aussi, les zones de moyenne montagne sont de moins en moins faciles à cultiver. Donc ça aussi, ça va entraîner des migrations supplémentaires dans les années proches. Bon, il y a aussi la disparition de la biodiversité. Hein. On nous dit quand même que beaucoup de plantes, d'espèces disparaissent. Donc tout ça impacte. Et puis la spéculation, vous en avez parlé.
Alors dites-nous un mot de ce que c'est que la spéculation sur les produits alimentaires. Est-ce que tout le monde ne connaît pas cette réalité ?
Bon, ça c'est un peu complexe. Cette spéculation, ça impacte les marchés. Donc les prix montent et les prix baissent de manière aléatoire. Ça n'a rien à voir avec la réalité du terrain. Et puis les actionnaires jouent sur ces prix et ça casse les marchés locaux. Enfin, je ne saurais pas expliquer plus, mais peut-être Monique mieux. En tout cas, tout ça, c'est des phénomènes qui impactent nos partenaires et les personnes
du Sud. Du coup, l'action globale en fait, du CCFD pour lutter contre la faim, c'est donc le soutien à ses partenaires locaux.
Voilà. Et puis le travail de plaidoyer. Voilà, bien sûr.
Alors, le plaidoyer, vous avez, semble-t-il, publié une brochure récemment intitulée « Le plaidoyer, ça marche ». Une analyse donc sur votre action donc de plaidoyer de 2012 à 2017, puisque les plaidoyers existent depuis 2012, c'est ça à peu près ?
Le plaidoyer local, oui, mais les actions de plaidoyer au CCFD sont un peu plus anciennes.
Alors redites-nous un mot d'introduction sur ce que sont les plaidoyers. En fait, vous êtes chargé de porter auprès des pouvoirs publics dans les différents en France et peut-être ailleurs.
Plutôt des politiques, oui, et tous ceux qui ont du pouvoir. Alors le plaidoyer n'est pas dissocié, bien sûr, de l'action du CCFD contre la faim, puisque qu'avec le plaidoyer, on travaille vraiment contre les causes structurelles de la faim auprès des politiques pour faire changer les politiques nationales et internationales, souvent sur des problèmes politiques et sur le respect des droits humains. Le plaidoyer au CCFD, on est centré en continuité avec ce que vient de dire Françoise sur la souveraineté alimentaire, puisque d'abord on veut agir sur les problèmes de la faim, donc le plaidoyer sur les politiques de culture, d'agriculture, sont bien sûr au centre de nos actions. Il y a ensuite un plaidoyer sur le financement du développement. Et là, la lutte contre les paradis fiscaux est au centre, justement, de notre action. Enfin, il y a un plaidoyer sur la responsabilité des entreprises multinationales. Là aussi, je pense que nous allons en reparler. Et enfin, un dernier plaidoyer qui est en train d'émerger au CCFD, c'est un plaidoyer sur les politiques migratoires.
Alors, si on s'arrête rapidement sur les paradis fiscaux, je vous proposais de le faire parce que je pense que beaucoup de gens ont entendu parler de cette campagne. Et puis, on trouve sur votre site internet, c'était en date donc du 12 mars, 15 mois après la première publication de la nouvelle liste, 15 mois après une première publication, une nouvelle liste de paradis fiscaux vient d'être publiée par l'Union européenne. Donc, preuve que l'action du CCFD et de d'autres ONG paye quelque peu, puisqu'on sait maintenant où sont les paradis fiscaux. Hein. L'Union européenne pointe du doigt le Luxembourg, l'Irlande et les Pays-Bas. Mais le travail est long. Est-ce que vous pouvez nous dire quelle a été l'action en fait du CCFD sur ce sujet ? Vous avez l'air de dire qu'en ce moment, les choses étaient un peu suspendues ou en stand-by, comme on dit.
Tout à fait, oui. Alors, le CCFD s'est positionné depuis peut-être déjà une quinzaine d'années contre la lutte sur les paradis fiscaux, puisque par les paradis fiscaux, les multinationales privent beaucoup les pays du Sud de rentrées fiscales. Et donc, les pays du Sud n'ayant pas de rentrées fiscales, alors que les productions se font chez eux ou les extractions minières se font chez eux, ne peuvent pas développer de politique de développement, puisqu'ils n'ont pas de budget. C'est la raison pour laquelle, d'emblée, le CCFD s'est positionné contre les paradis fiscaux et l'évasion fiscale. Demander des listes de paradis fiscaux, ça n'a pas été peut-être la priorité du CCFD. C'est plutôt demander, parce que c'était une mission impossible. La preuve, c'est que dans les dernières listes de paradis fiscaux qui ont été éditées, comme vous l'avez dit,
par
l'Union européenne, ne figurent pas les plus gros paradis fiscaux, peut-être que nous.
La Suisse, les États-Unis,
la Suisse, le Luxembourg, etc. Voilà. Par contre, nous avons travaillé beaucoup sur la transparence fiscale et des banques et des entreprises multinationales. Pour les banques, depuis 2013, il y a une loi française qui oblige les banques à chaque année publier là où elles sont installées, là où elles font leurs bénéfices, là où elles ont leurs capitaux, le nombre d'employés qu'elles ont dans chacun des pays. Et les impôts qu'elles payent, puisque les banques doivent payer aussi des impôts. Ça s'appelle le reporting pays par pays. Ça a été obtenu pour les banques. Et c'est un grand succès.
Et les Panama Papers, c'était postérieur à 2013, non ? Donc le CCFD n'a pas été surpris quelque part ou...
Bah si, puis de toute façon, c'est ces scandales qui ont été mis au public, qui ont été ont beaucoup fait avancer les choses, parce que les États ont été contraints quand même d'avancer au niveau de leur législation.
On dit que les choses étaient en stand-by sur ce sujet.
Nous avons beaucoup travaillé ces dernières années, surtout dans la dernière législature sous Hollande, sur la transparence des multinationales. On sait que les multinationales ont des activités dans tel pays, que là, dans ce pays-là, elles ne payent pas leurs impôts parce qu'elles localisent leurs bénéfices dans les paradis fiscaux. Donc, ce qu'on avait obtenu pour les banques, nous avons travaillé avec d'autres ONG, d'autres syndicats, à l'obtenir pour les entreprises multinationales. C'est-à-dire, c'était un terme un peu qu'on appelle reporting financier pays par pays. Savoir où sont les bénéfices, où sont les activités réelles et où sont payés les impôts. On en parle beaucoup actuellement pour les GAFA, etc. Hein, donc c'est vraiment un problème d'actualité.
Donc c'est compliqué.
C'est compliqué, pourquoi ? Parce que en France, on avait obtenu un amendement en 2017. Et cet amendement a été retoqué par le Conseil constitutionnel parce que soi-disant que cet amendement s'attaquait à la libre entreprise. Il y a toujours le problème de concurrence, de publier, si vous voulez, que le public sache là où se font les activités d'une entreprise. Paraît-il, irait contre le principe de libre entreprise. Donc, nous attendons maintenant des avancées au niveau européen et au niveau mondial. Voilà, pour l'instant. Alors voilà pour les paradis fiscaux.
Autre action donc, dont le CCFD se félicite, c'est la loi sur le devoir de vigilance. Alors, je vais vous dire ce que j'en ai compris, puis je vais vous laisser commenter. Donc, ça date de 2017. Oui. Et le but est d'identifier, de prévenir les atteintes aux droits humains et à l'environnement, donc des grandes entreprises. Expliquez-nous plus en détail ce que c'est que cette loi sur le devoir de vigilance.
Alors, les grosses entreprises ont beaucoup de filiales, mais aussi beaucoup de sous-traitants et de fournisseurs qui ne font pas partie de leur entreprise. Et je vais partir d'un exemple qui date d'avril 2013, qui est le drame du Rana Plaza au Bangladesh. Ce drame, c'était donc plus de 3000 ouvrières dans un même bâtiment à Dhaka qui s'est effondré.
En Inde ?
Au Bangladesh, au Bangladesh, avec plus de 1000 victimes décédées et de très, très, très nombreuses accidentées, et beaucoup de jeunes filles qui travaillaient dans des conditions assez horribles au point de vue hygiène, au point de vue sécurité. Et là, on a dans cet immeuble, dans les décombres, nous avons découvert des étiquettes de marques de vêtements qui se vendaient en France. Alors, je citerai parce que c'est public, Carrefour, Auchan, Camailleux, etc. Et ces entreprises, mais il y en avait beaucoup, ces entreprises disaient, ben non, nous, on n'est pas responsable de ce qui s'est passé dans cet immeuble. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas notre entreprise. Effectivement, c'était des sous-traitants et des sous-sous-sous-traitants de ces entreprises. Et pour fabriquer nos t-shirts à 5 euros ou nos jeans à 20 euros.
Ou nos montres à 5 euros.
Nos montres à 5 euros.
Enfin,
là, c'était une entreprise de vêtements.
D'accord.
Et donc, l'opinion publique, ainsi que les politiques, ont été très sensibilisés à ce drame et à ce manque de responsabilité des entreprises. Nous étions sur le sujet depuis quelques années auparavant et on avait contribué à créer ce qu'on appelle le Forum citoyen pour la responsabilité des entreprises. Mais n'empêche que des politiques ont décidé à partir de ce moment-là de prendre le taureau par les cornes et de se dire qu'il faut réguler les entreprises pour qu'elles soient responsables de leurs actes, mais aussi responsables des actes de leurs filiales, de leurs sous-traitants, de leurs fournisseurs.
Alors que prévoit ce plan de vigilance ? Que j'ai compris que pour nombre d'entreprises, c'était même donc très difficile de savoir au final qui produisait leur commande.
Exactement.
Alors qu'est-ce que c'est que
donc,
ce plan de vigilance ?
Il faut tout simplement
essayer de savoir au final qui produit pour commencer.
Il faut savoir faire. Oui, voilà. Elles doivent établir chaque année, publier ce qu'on appelle toutes les entreprises. On a obtenu que pour les très grosses entreprises, il y en a 150 en France à peu près. 150, c'est pas suffisant, mais bon, on a obtenu que ça. Donc, elles doivent publier chaque année ce qu'on appelle un plan de vigilance, où elles doivent répertorier tous les risques d'atteinte aux droits humains et à l'environnement que peuvent causer leur entreprise, mais aussi leurs sous-traitants, leurs fournisseurs. Et en plus de les identifier, ces risques, elles doivent essayer de les corriger, en tous les cas de prévoir un plan pour les corriger. Et donc c'est bon.
Vous aviez un exemple récemment, vous aviez assisté à un colloque chez Airbus.
Oui, donc...
Alors, racontez-nous rapidement.
Alors, c'est un colloque organisé par la CGT, puisque ces plans de vigilance se mettent donc en place dans les grandes entreprises. Et là, c'était un colloque de sous-traitants. Alors là, c'était pas trop la solidarité internationale qui intervenait, mais c'était plutôt les conditions chez les sous-traitants qui, des fois, sont super... Enfin, les employés de ces sous-traitants sont peut-être plus maltraités au point de vue droit et conditions de travail que les propres salariés de Airbus. Mmh. Et donc, les syndicats s'organisent pour pouvoir mettre un œil sur ces plans de vigilance. Et nous-mêmes, en tant qu'ONG, ces plans de vigilance donc datent que de 2018, puisque la loi a été votée en 2017, il y avait obligation à partir de 2018 de publier ces plans de vigilance. Nous ne savons pas encore la liste des entreprises qui sont obligées de publier ces plans de vigilance. Donc c'est déjà un point sur lequel nous, ONG, nous travaillons, savoir qui précisément doit publier ses devoirs, ses plans de vigilance.
On trouve quand même des informations, donc c'était le 21 février 2019, un article sur votre site internet qui dit quand même la chose suivante. Plus grave encore, certaines sociétés telles que Lactalis, le Crédit Agricole, Zara ou encore H&M n'ont toujours pas publié de plan de vigilance en dépit de l'obligation légale qui leur est faite. Et puis un peu plus loin, nous avons analysé particulièrement les plans de vigilance d'entreprises majeures telles que Danone, Dassault Aviation, Total, BNP Paribas ou encore Carrefour, et il y a d'importants manquements sur ce sujet. On en reparlera, je vous propose que je vois le temps qui passe et vous vouliez nous parler de migration à l'occasion des prochaines élections européennes. Vous faites tout un travail au CCFD donc, sur ce thème, et vous avez commencé par écrire donc, une déclaration d'intention sur le thème des migrations. Expliquez-nous dans quel état d'esprit d'abord cette déclaration a été faite. Je cite juste un passage. Les migrations sont un bien commun de l'humanité, est-il dit dans cette déclaration.
Tout à fait. Donc, pourquoi le CCFD s'intéresse aux migrations? D'une part, parce que il y avait un nombre très important de bénévoles du CCFD qui s'impliquaient localement avec d'autres associations dans l'aide aux migrants. Et il y avait vraiment un besoin au sein de l'association de définir une politique, un positionnement du CCFD. C'est un texte de positionnement du CCFD qui a été validé récemment sur justement les politiques migratoires et sur l'accueil que nous devons faire aux migrants. Pourquoi le CCFD aussi a validé ce texte de positionnement? C'est parce qu'au sein de l'Église, on sent bien qu'il y a une poussée, que ce soit des évêques, que ce soit les appels du pape, à développer au sein de notre communauté cet accueil des migrants et à lutter contre peut-être les politiques migratoires actuelles.
Alors il y a beaucoup de choses. On peut citer entre trois positions importantes. Construire ensemble des politiques migratoires respectueuses des droits humains fondamentaux. Travailler donc à la réalisation donc d'un droit international des migrations opposable à tous les États du monde. Ça vous allez peut-être pouvoir commenter parce que droit opposable ça peut poser question à certains. Et renforcement des valeurs de solidarité dans la gouvernance européenne autour des politiques migratoires. Par exemple, si on s'arrête sur ce droit international des migrations opposable à tous les États du monde. Qu'est-ce que ça veut dire, en fait?
Alors, le CCFD a une position peut-être un peu particulière à cette ONG, c'est-à-dire qu'elle pense que les politiques migratoires doivent se définir au sein de l'ONU, d'abord. Ce qui va être compliqué quand on voit déjà les difficultés au sein européen. Mais elle pense que c'est vraiment
Il faut une gouvernance mondiale, en tout cas.
Voilà, une gouvernance mondiale des politiques migratoires. Ensuite, le texte de positionnement du CCFD est assez clair sur certaines positions. Le CCFD va défendre la liberté de circulation et d'installation des populations en général. Elle va dire que les migrations sont une richesse, sont source de richesse et doivent faire l'objet d'une gouvernance mondiale, nous l'avons dit. Ensuite, on ne va pas abolir les frontières, mais on va préconiser une ouverture des frontières. Donc ce sont des points, je pense, qui sont à développer, parce que peut-être quelques catholiques, encore même pratiquants, vont se poser des questions autour de ces affirmations. Et peut-être, comme cette campagne sur les migrations de sensibilisation du CCFD va débuter début mai, avant les élections européennes, que cela va être un enjeu important pour la détermination des citoyens pour leur vote. Peut-être que vous pourriez peut-être nous inviter avec d'autres ONG.
C'est incroyable.
Type Secours catholique.
CCFD, ils ont de la suite dans les idées. C'est la première fois qu'on me fait
type
ça, qu'on me demande en direct une émission. Incroyable.
Sur ce thème qui est un sujet brûlant.
Oui, oui, vous inquiétez pas, on en discutera après. On passe commande en direct maintenant. Pour finir, avant qu'on fasse une deuxième pause musicale, est-ce que vous pouvez nous parler, Françoise Laborde, de votre action de Carême 2019? Chaque année, donc, le CCFD propose des actions. Et cette année, donc, c'est pour vaincre la faim, devenons semeurs de solidarité. Donc on peut trouver un certain nombre de méditations sur des thèmes que sont donc la solidarité, la paix ou la fraternité, etc. Donc il y a des courtes méditations, des extraits de documents pontificaux, documents d'église, et puis paroles d'auteurs pour un carême, on va dire, en communauté autour de cette question. Expliquez-nous comment ça marche.
Oui, donc c'est à partir de la brochure de carême. Donc effectivement, il y a un cheminement avec les 5 dimanches de carême autour de ce thème de semons, devenons semeurs de solidarité, avec un thème spécifique pour chaque dimanche et même une possibilité pour le mercredi descendre. Puis après, l'animation bien sûr plus détaillée du 5e dimanche de carême. Il y a des propositions de fiches pour des soirées qui peuvent être organisées de manière ou spirituelle ou aux conférences. Voilà. Et puis donc un petit livret, en plus de cette brochure générale, un petit livret avec des textes de méditation que chacun peut s'approprier pour cheminer. Il y a aussi une affiche de carême où on aperçoit Lisette, qui est une de nos animatrices, qui est à Lourdes, à l'espace rencontre, et d'un autre côté, un partenaire d'Amérique latine avec sa pomme de terre bien colorée, ouverte, pour montrer que les acteurs de la solidarité sont ici et là-bas. Et puis l'affiche de carême, c'est un dessin un peu symbolique avec une femme africaine, ou enfin de couleur, accroupie sur la planète, et à l'intérieur, des tas de silhouettes qui travaillent ensemble, qui rejoignent un petit peu notre nouveau logo et notre nouvelle marque.
Voilà, donc un carême 2019 sur le thème vaincre, redites-nous le thème.
C'est pour vaincre la faim, devenons les semeurs de solidarité. On repart un peu sur les 5 causes de la faim dont on a parlé un petit peu tout à l'heure.
On va faire une deuxième pause et puis on va vous retrouver et surtout donc Chantal Aubé pour parler donc de ce label Église Verte qui n'a pas été porté directement par le CCFD mais auquel le CCFD a contribué. Voilà, c'est une initiative vraiment intéressante où, je le dis en teasing, on peut aller sur un site internet et faire un éco-test, comme on appelle ça déjà ?
Un éco-diagnostic
de sa communauté pour se mettre en chemin dans cette transition écologique.
Radio Présence à Luchon, 94 FM. Vivante Église, Emmanuel Pella.
Quoi de neuf au CCFD, Terre solidaire, il faut bien insister sur Terre solidaire. Je rappelle donc ce matin thème de cette émission Vivante Église, avec autour du plateau Françoise Laborde, pour ceux qui nous rejoindraient, donc présidente de la délégation du diocèse de Toulouse, Monique Plantavide, déléguée régionale à la commission plaidoyer, et Chantal Aubé, donc membre de cette même ONG. Alors avec vous, Chantal, donc on va parler d'Église verte. Vous me disiez, donc pendant la pause, ça a été lancé il y a un an et demi. J'avoue que j'ai découvert, avec la préparation de cette émission, comme quoi voilà, on a toujours plein de choses passionnantes à découvrir. Et j'ai découvert, entre autres, que c'était le fruit d'un travail œcuménique, donc des églises chrétiennes, sur la question de la transition écologique. Présentez-nous cette initiative avant qu'on regarde un peu dans le détail.
Oui. Alors, on voit bien ces dernières années que la sensibilisation se fait un petit peu à tous les niveaux, la sensibilisation pour les causes climatiques, écologiques. Et donc, des chrétiens s'interrogent depuis plusieurs années à travers des petits rassemblements. Il y a eu le Jeûne pour le climat, il y a eu des choses comme ça. Et aussi, il y a un regroupement à travers plusieurs communautés qui se sont regroupées. Et ce projet Église verte, il est né, il a été lancé il y a un an et demi, en l'automne 2017. Ça répondait à un besoin des chrétiens parce que il y a eu bien sûr l'encyclique du pape François il y a 3 ans et demi, et puis à la suite de ça, on se dit qu'est-ce que je peux faire. On fait des choses peut-être à la maison, on fait des choses au travail, on fait des choses, mais aussi dans nos communautés, nous les chrétiens, on doit s'engager. Moi, j'ai une citation du pape François, par exemple, ça concerne un sujet un peu précis, mais ça dit bien combien on doit s'engager. Le pape François qui disait à la journée du 1er septembre l'année dernière, qui est la journée mondiale de la création, mon souhait est que les communautés chrétiennes contribuent toujours davantage et toujours plus concrètement afin que tout le monde puisse jouir de cette ressource indispensable, en particulier des cours d'eau, des mers, des océans. Donc il appelle vraiment les chrétiens à s'engager concrètement.
Quand on dit que c'est œcuménique, donc ça veut dire que nos frères protestants, orthodoxes, sont engagés, et ceux au plus haut niveau, non ? Est-ce que vous pouvez citer quelques personnalités ?
Il y a par exemple, pour les chrétiens, il y a Elena Lacida, qui est une théologienne que beaucoup connaissent. Il y a le pasteur Claveroli, il y a Martin Kopf, qui est un protestant luthérien, je crois. Il y a l'évêque Monseigneur, j'ai oublié son nom.
L'évêque référent donc du CCFD, c'est ça ?
Monseigneur Fayet, qui était à la journée de lancement. Alors, c'est vraiment quelque chose que l'Église a pris au sérieux. Alors, les partenaires sont le Conseil des Églises chrétiennes de France, la Conférence des évêques de France, l'Assemblée des évêques orthodoxes de France et la Fédération protestante.
Donc, cette Église verte, c'est un label, en fait, qu'on obtient, c'est ça ?
C'est
après
un label.
Une démarche.
Alors, quand une communauté, quand des personnes dans une communauté se sentent envie de le proposer, il faut avoir l'accord, bien sûr, des responsables de la paroisse. C'est quelque chose qu'on discute avec le curé, avec l'EAP, et puis voilà. Donc, quand il y a l'accord, on fait la demande à Paris, il y a un site, il y a des personnes, et puis on est invité à faire un éco-diagnostic, donc, et à faire à l'instant T, où on en est dans notre paroisse, dans notre école, dans notre diocèse, dans notre... Voilà, alors on est... L'éco-diagnostic porte sur les célébrations et la catéchèse, sur les bâtiments, sur le terrain, sur l'engagement local et global, sur les modes de vie et sur les outils de communication. Et avec un certain nombre de questions assez précises, qu'est-ce que l'on fait, qu'est-ce que l'on ne fait pas.
Par exemple, célébration et catéchèse, en quoi la célébration et la catéchèse peuvent participer de la transition écologique? C'est quoi? C'est le nombre de kilomètres qu'on fait pour venir aux célébrations? C'est la provenance de l'encens?
Par exemple, est-ce que dans les célébrations à la catéchèse, est-ce que les prêtres, dans leurs homélies, en parlent? Est-ce qu'on fait des journées ou des soirées de thématiques, par exemple, sur un sujet écologique? Enfin, comment moi, je peux faire pour que mon empreinte soit plus faible, que je réfléchis à quel choix je fais, que ce soit le plus
Il y a un certain nombre de fiches pratiques. Par exemple, il y a des fiches pratiques sur les déplacements. Oui. Donc, vous y rappelez quelques chiffres clés en disant que les transports, c'est 38% des émissions de gaz à effet de serre en France, que pour les ménages, c'est 79% qui sont liés donc à l'utilisation du véhicule automobile. Et c'est vrai que quand on pense aux jeunes prêtres qui sont dans les campagnes, on se dit, mon Dieu, comment vont-ils faire ? Vous incitez aussi à réfléchir en disant qu'aujourd'hui, on a parfois une vie d'église, on va dire, variée et riche, hein, mais qui entraîne un certain nombre de déplacements quand on va à Thésée, quand on va aux Journées mondiales de la jeunesse. Donc ça rentre dans le détail. Hein, c'est long. Cet éco-diagnostic ? Faut compter quoi, une année ?
Non, l'éco-diagnostic, on le fait à l'instant T. Ça prend une heure ou deux en équipe. On répond, on coche des cases et tout ça. Puis après, on va réfléchir en équipe aussi. Bon, sur quoi on peut faire effort dans les mois qui viennent. On peut pas tout faire d'un coup. Et puis on fait ce que l'on peut aussi. Il y a des choses. Le prêtre qui doit aller à 25 km voir des paroissiens, il le fera sûrement pas à pied. On ne demande pas l'impossible.
Il y en a quand même quelques-uns, je ne citerai pas de nom, mais il y en a un dans le diocèse qui ne vient pas à la radio parce qu'il faudrait qu'il se lève à 4h du matin pour venir en vélo.
Mais bon, on n'est pas non plus illuminé et tout ça, mais néanmoins, chacun, dans beaucoup de gestes de notre vie quotidienne, on peut dire, on peut prendre le train, on peut covoiturer, on peut faire du vélo, on peut. Bon, ça, c'est l'exemple du transport, mais il y a les autres. Est-ce que quand on fait des fêtes paroissiales, est-ce qu'on a une abondance, on remplit des poubelles et des poubelles, ou est-ce qu'on demande à chacun de prendre des bols durables, chacun apporte sa vaisselle et pas des vaisselles en plastique, etc. Enfin, c'est tout ça. C'est des petites choses. C'est aussi des petites choses, pas que des petites choses. Il y a aussi un côté spirituel, parce qu'on sait pourquoi on le fait. Enfin, c'est pas accumuler des gestes, mais c'est le faire parce que pour que ce soit meilleur pour tout le monde. On sait bien que la planète va mal, que beaucoup de gens souffrent aujourd'hui du changement climatique, on l'a dit tout à l'heure, et chacun a sa part de responsabilité. Donc,
est-ce que vous pouvez prendre un exemple ? Vous me disiez donc dans notre en Occitanie, donc il y avait le diocèse de Montauban qui s'était engagé dans cette démarche, donc à l'échelon diocésain, et il y a quelques paroisses, dont la vôtre, oui, celle de Colomé, donc en proche région toulousaine, par exemple. Donc vous avez fait votre éco-diagnostic en communauté.
On a fait notre éco-diagnostic à la fin de 2018, et puis on a annoncé dans notre revue.
Vous aviez une bonne note ou une mauvaise alors ?
On n'est pas très bon.
Ah bon.
Et quelquefois, on ne peut pas remplir non plus toutes les cases, parce que par exemple, la paroisse de Colomiers, à côté de Toulouse, n'a pas de terrain. Donc, les choses que l'on peut faire, c'est par exemple l'éclairage. Est-ce que on prend des on peut changer les ampoules ? Peut-être. C'est une évaluation à faire. Est-ce que quand on fait des investissements, on pense au chauffage ? Est-ce que etc. Alors, moi, ce que je peux dire, c'est que par exemple, lancé il y a un an et demi, il y a 232 communautés qui sont en route aujourd'hui, dont 11 monastères, 14 évêchés, celui de Montauban qu'on a cité. Il y a des établissements scolaires qui peuvent le faire aussi. C'est ouvert à différentes communautés et structures.
Oui. Le site internet, c'est
www.égliseverte.fr. Je ne sais même pas.
Voilà, bon, vous tapez Église verte sur Internet et du coup, vous pouvez tomber. Et il y a un onglet, cliquez sur l'éco-diagnostic.
Oui,
et j'imagine que ça renvoie
bien,
après
voilà,
à toutes les informations nécessaires. Pour finir.
Et on reçoit un label, parce qu'on a parlé de label. Donc y a...
Mais vous le recevez au bout de la démarche quand même, rassurez-moi. Il ne suffit pas de faire l'éco-diagnostic.
Alors, on a reçu le label CNV, graines de CNV. Après, ça va aller jusqu'au cèdre. Il y a cinq.
C'est comme au ski en fait. On a l'ourson, après on a la première étoile, la deuxième étoile. Étoile,
ça
la troisième
va grandir,
étoile. C'est bien, vous savez motiver les troupes. pour finir, Françoise Laborde et Monique Plantavide, vous vouliez mettre donc un coup de focus sur deux événements ou deux actualités. On commence avec vous, Monique Plantavide, pour faire écho à ce que vous nous aviez dit voilà, je ne retrouve plus le terme exact, vous allez m'aider.
Sur la loi sur le devoir de vigilance,
voilà,
et la régulation des entreprises.
Il y a une pétition en ce moment et une pétition à signer, en tout cas le CCA dépousse cette pétition.
Tout à fait. Vu l'importance pour les droits humains
une minute
de cette loi, nous avons lancé avec plus de 150 ONG et collectifs une pétition européenne, une initiative européenne qui s'intitule « Des droits pour les peuples et des règles pour les multinationales ». J'invite tous les auditeurs de votre radio de vraiment participer à cette initiative européenne qui est une signature et à diffuser cette initiative pour demander une régulation plus importante des entreprises multinationales. Cette pétition, donc, si vous allez sur le site du CCFD, vous pouvez l'atteindre par ou alors un site européen qui s'appelle français d'abord qui s'appelle Stop Impunité. Ça se tient Stop Impunité.
Et rappelez-nous donc le titre de cette pétition, c'est
Des droits pour les peuples, des règles pour les multinationales.
Dernière information, donc Françoise Laborde, une actualité du CCFD samedi prochain.
Oui, donc c'est une actualité régionale, donc une journée de réflexion sur le thème du CCFD. On était sur le bien-vivre des peuples sur leur territoire. Est-ce qu'on va continuer? Comment on va le réorienter? Et on aura la présence d'une partenaire du Chili, qui s'appelle Camilla. Et donc c'est le samedi 23 mars, de 9h à 17h, à la salle paroissiale de Castelginest. Et cette partenaire sera en rencontre ouverte à Saint-Gaudens l'après-midi du dimanche 24 mars au centre Saint-Louis à partir de 14h.
Et cette partenaire, qu'est-ce qu'ils font exactement sur place?
C'est une association qui travaille autour de l'agroécologie, voilà, là-bas au Chili.
Eh bien, merci beaucoup d'être venu au micro de Vivante Église donc, pour nous parler donc, du CCFD Terres Solidaires, donc avec ce nouveau logo et label et cette signature « Soyez les forces du changement » adressée donc, à tout le monde. Merci beaucoup. Cette émission a été réalisée par Christophe Aubry, vous pouvez la réécouter ce soir à 21h ou la retrouver en podcast sur notre site internet ou notre page Facebook. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain.
Cette émission est disponible sur CD. Commandez-la en téléphonant au 05 62 48 63 00 05 62 48 63 00 ou par mail à contact@radioprésence.com.